Chapitre 32. 1960.
Il est 11 heures du matin. Mokhtar descend pour récupérer le journal qu'il a oublié sur le comptoir du magasin. Et il a un mouvement de recul en apercevant Colette. Elle ne devrait pas être là un dimanche. Elle sanglote devant la machine à coudre, la tête posée sur ses avant-bras. Dans l'encadrement de la porte, Mokhtar n'ose pas bouger. Il pensait que Colette ne pleurait pas. Pourquoi ? Tout le monde pleure, même ceux qui ne pleurent jamais. Ça ressemble à du chagrin, un gros chagrin. Lui, lorsqu'il est triste, il est comme une bête blessée, il se cache. Parce que sa sœur lui manque trop, que les siens sont loin, que son frère n'est plus. Colette sent sa présence, relève la tête et essuie ses larmes d'un geste brusque. « Mais pourquoi tu es là, ma fille ?» finit-il par demander. « Tu t'es fait mal ?» Colette se lève, l'air sévère, un air qu'il ne lui a jamais vu. Elle réajuste un pli de sa jupe avant de lui répondre.
« La mère a dénoncé Eugénie de Sénéchal. »
Elle prononce ces mots comme si elle les crachait. Mokhtar fronce les sourcils et passe ses pouces sur sa moustache. Dénoncer. Ce mot le ramène à la guerre. La Gestapo, la police française et les traîtres. Il a assisté, impuissant, à l'arrestation d'une famille juive en 1942. La même année, lui, l'étranger, a été frappé par trois hommes cagoulés qui ont fait irruption dans la cordonnerie. Ils l'ont laissé pour mort. Deux côtes cassées, des hématomes sur tout le corps, un traumatisme crânien. Un miracle qu'il s'en soit sorti. Il n'en a jamais parlé à Colette. Pourquoi faire ?
Jean n'a plus droit au piano. Le marquis lui a interdit. Vous connaissez des injures, vous ?
Mokhtar réfléchit. En français ?
Oui, en français.
Il hésite avant de se lancer.
Merde, fils de pute, connasse.
C'est quoi, une connasse?
Je crois que c'est une idiote en beaucoup plus grave, hasarde-t-il.
La mère est la reine des connasses.
Ta mère?
Non, la mère. Je la déteste. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais la voir. Elle m'a jamais embrassée. Vous en connaissez beaucoup, vous, des mamans qui embrassent pas leurs enfants? Même les génisses et les brebis font des câlins à leurs petits. Il n'y a que la dernière, la petite Danielle, qu'elle papouille à longueur de journée.
Mais je suis pas jalouse. Je voudrais pas qu'elle me touche. Elle pue l'ail. Et sa peau est dure comme du papier de verre.
Peut-être qu'elle sait pas te dire des choses. Qu'elle fait pas exprès.
Non, je crois pas. Jean a passé une audition à Lyon pour étudier la musique chez un grand professeur. La mère est tellement mauvaise qu'elle a tout raconté au marquis. C'était son affaire à la marquise de présenter Jean à ce professeur. Elle savait que si son mari l'apprenait, il l'en empêcherait à cause de l'argent. C'était le meilleur professeur pour préparer Jean au conservatoire. Le vieux s'est mis dans une rage folle quand il l'a su. Il a traité sa femme de menteuse et de voleuse. C'est Blaise qui m'a raconté. Depuis, elle sort plus de sa chambre. Et mon frère a plus le droit d'entrer au château. Il paraît que Sénéchal cherche un maître d'apprentissage à Jean. Il a que 10 ans. Et déjà, lui et la mère veulent le faire trimer pour s'en débarrasser. Mais Jean, il est fait pour le piano. Il peut pas devenir quelqu'un d'autre. Il est pianiste comme vous, vous êtes cordonnier. Comme Dieu est Dieu. Comme le père François est facteur.
Et comme toi, tu aurais dû faire l'institutrice.
Elle se laisse tomber sur sa chaise, découragée.
Moi, je suis bien ici avec vous. Blaise m'a dit que mon frère était couché depuis jeudi. Il refuse de se lever pour aller à l'école. Il va se laisser mourir, j'en suis sûre.
Mokhtar va s'asseoir derrière son comptoir. Il touche à nouveau sa moustache, du bout des doigts, en réfléchissant.
« Si je comprends bien, » dit-il, « faut un piano à ton frère. » « Eh ben, tu n'as qu'à prendre Jean ici, avec nous. Il pourra jouer tous les jours à l'église. Elle est en face. »
« Mais comment on va faire pour vivre ?»«
Comme les autres. » « Comme tout le monde, ma fille. On va se débrouiller. Et puis, j'ai l'argent de côté pour faire le voyage. »
« Mais cet argent, c'est... »
Colette n'a pas le temps de finir sa phrase. Mokhtar est déjà parti. Assise à la table, Georgette avale sa soupe machinalement, les yeux dans le vide. C'est une bonne journée. Le service de midi s'est bien passé. Le marquis s'est régalé avec le civet de lapin qu'elle lui a préparé. Depuis que la marquise boude dans sa chambre, c'est la première fois qu'elle le voit presque sourire. Il en a repris 3 fois et a saucé avec de gros bouts de miche en répétant « sacrément bon ». Quand elle a su qu'elle avait tout avoué à monsieur pour Lyon et le piano, Colette a refusé de venir. Alors qu'on est dimanche. Qu'est-ce qu'elle a fait au bon Dieu pour mériter des enfants pareils? L'aîné, la bouche pleine de reproches. Le fils, qui veut avoir une vie comme s'il était né les poches pleines d'or. Elle tapote la tête de Daniel, qui grignote un quignon de pain en jouant avec les miettes. Heureusement qu'elle l'a, celle-là. Elle sursaute lorsqu'elle aperçoit la silhouette de Mokhtar dans l'embrasure de la porte. Ils se sont déjà croisés dans le centre-ville. « La Colette a fait une connerie ?» demande-t-elle avant même de le saluer. « Bonjour, madame. Colette, elle fait jamais de conneries. C'est une petite sérieuse. » Elle fronce les sourcils, méfiante, comme si entendre du bien de sa fille était suspect. « Où est Jean ?» interroge Mokhtar, abrupt.
« Dans sa chambre. »«
Il est souffrant ?»«
Ça passera. »«
Vous en êtes sûr ?» Elle pince les lèvres, se sent forte. Ça se voit que le marquis la considère, depuis qu'elle lui a dit toute la vérité. Mokhtar observe cette femme attablée, sa fille qui grimpe sur ses genoux, que sa présence inquiète. Colette ne ressemble pas à cette petite, pense-t-il, le contraire de son aînée.
Il paraît que vous cherchez un maître d'apprentissage à Jean, reprend-il.
Une lueur surgit dans les yeux de la femme. Pas celle d'un grand feu de joie, mais d'une braise mourante. C'est sans doute le maximum que peut exprimer son regard.
« Ce serait payé combien ?»«
Je n'ai pas le droit d'embaucher un enfant, madame. Il continuera à aller à l'école pour l'instant. »«
Et ça va rapporter combien ?»«
À vous, une bouche en moins à nourrir. »« Et quand il aura l'âge de l'apprentissage, vous vous arrangerez avec lui. » »«
La Colette est d'accord avec cette idée-là ?»«
Oui. » »«
Et le piano ?» demande-t-elle suspicieuse.
Jean pourra jouer à l'église. Le curé, c'est mon ami. Georgette l'observe, méfiante. Le marquis n'en peut plus de Jean. Il lui sort par les yeux. Ça commence par le gosse, et après, ça pourrait lui retomber dessus. Le patron pourrait les congédier, elle et Daniel, à cause de lui. Alors que là, sans le ch'ti, ça pourrait être une bénédiction, cette histoire. Plus de piano.
Décidément, c'est une bonne journée.
Jean viendra vous voir chaque dimanche avec Colette, assure Mokhtar d'une voix douce. Colette a raison, se dit-il. Cette femme est une connasse. Elle a l'air stupide, en beaucoup plus grave. Il pense à sa mère, douce et aimante. Comme elle sentait bon. Tout le monde ne n'est pas égal face à sa mère. Il voudrait parler à Jean, le rassurer, mais n'ose plus rien dire, rien demander. Il a peur que la connasse change d'avis. Il ne connaît pas ce petit, le devine à travers l'amour que sa grande sœur lui porte. Il a presque honte à présent, lui, le Tunisien, sur le pas de la porte de cette maison, devant cet inconnu qui le dévisage.
« Bon dimanche, madame. Si vous êtes d'accord,
tout ira pour le mieux. » Georgette prononce un « au revoir » presque inaudible. « Avant de laisser partir Jean, pense-t-elle, il faudra peut-être en parler à monsieur. » Elle n'en a pas le temps. Une petite heure après le départ de Mokhtar, Colette et Blaise reviennent comme un courant d'air dans la maison. Georgette s'est assoupie. Depuis la chambre, elle entend Colette pénétrer dans celle de Jean, lui demander de rassembler ses trois affaires et lui dire « Tu pars vivre avec moi chez Mokhtar !» La mère, qui n'a pas vraiment donné son accord, ne s'oppose pas. Elle ne bouge pas de son lit, ne les rejoint pas, comme s'ils étaient deux pestiférés à éviter, comme si un grand malheur s'abattait sur elle à chaque fois qu'elle respire le même air qu'eux. Son fils et sa fille quittent la maison sans un mot, sans l'appeler ou pousser la porte de sa chambre. Elle entend leur voix, Blaise qui attache le sac de Jean sur son porte-bagage.
« C'est temporaire !»
assure Colette à son petit frère. « Un jour, tu iras chez ce professeur pour préparer le conservatoire. En attendant, tu joueras à l'église. Il y a un piano ?
Un orgue. C'est pareil.
C'est pareil ?
Oui. »
Puis elle s'adresse à Blaise.
« Dis à ta mère que j'emmène Jean chez Mokhtar. Je lui dirai. »
Ils partent tous les trois. Georgette n'entend plus rien à présent. Juste le souffle de Daniel, ainsi qu'une pie dans le grand arbre qui sépare le château de la bâtisse où elle loge.